Chapitre 26. L'heure de capituler. Dans les couloirs du palais à Esdaïchar, l'âne avançait seul, en utilisant toutes les compétences acquises dans la flétrissure pour ne pas se faire remarquer et s'assurer, quand il s'engageait dans un couloir latéral, qu'il n'y aurait personne pour le voir. Immergé dans le Kodi, il parvenait à sentir une présence humaine avant qu'elle se matérialise devant ou derrière lui. Du coup, il lui suffisait de se jeter dans une entrée obscure ou de passer sous une arche pour ne pas faire de rencontre inopportune. Furtif à l'extrême, il aurait tout aussi bien pu être un fantôme. Désormais, Anya et Esné prenaient ouvertement leurs ordres des Daines, comme si elles pensaient respecter ainsi les coutumes du Malkière. Rusées comme elles l'étaient, Edain le leur avait peut-être laissé entendre. En revanche, Boulen lui demeurait loyal à première vue. À part lui, tous les domestiques du palais étaient disposés à renseigner Edain sur les faits et gestes du roi du Malkière. Malgré ses précédentes visites, l'âne s'était perdu deux fois en l'absence d'un guide. Mais il avait bon espoir d'être de nouveau en chemin pour sa destination. Posant la main sur le pommeau de son épée, il se sentit un peu embarrassé d'avoir emporté l'arme. Dans la bataille en cours, l'acier était parfaitement inutile. Mais sans sa lame, il se sentait tout nu, et ce n'était sûrement pas une faiblesse qu'il pouvait se permettre face à Edain. L'ombre d'un mouvement incita l'âne à se cacher derrière une statue de femme en robe vaporeuse, les bras laissés de fleurs. Juste à temps. Deux femmes émergèrent d'un couloir latéral, Issel et Méréane, en grande conversation. Derrière sa statue, l'âne resta immobile, comme s'il était lui aussi en marbre. Dans ce genre de situation, bouger revenait à trahir sa présence. L'âne n'aimait pas particulièrement jouer ainsi au chat et à la souris. Mais alors qu'Edain défaisait dans le Daori, le nœud qui l'avait empêché de sortir pendant deux jours, elle lui avait bien fait comprendre qu'elle comptait annoncer le mariage de sa fille, avec lui, le plus vite possible. Boukama avait vu juste. Edain se servait du Hadori comme d'un licol. Selon la coutume, sa Karneira perdrait la plus grande partie de son pouvoir sur lui lorsqu'elle aurait remis les cheveux tressés à Isel. Celle-ci étant sa fille, Edain saurait comment l'utiliser pour continuer de manipuler l'âne comme une marionnette. Isel coopérerait, parce qu'elle n'avait pas assez de cran pour s'opposer ouvertement à sa mère. Quand on affrontait un adversaire invincible, il n'y avait qu'une solution. Fuir. Sauf si périr pouvait rendre service à une grande cause. L'âne avait opté pour la fuite. S'il était encore au palais, c'était à cause de Boukama et d'un rêve. Sur un geste vif de Méréane, Isel hocha la tête avec ferveur, puis elle repartit seule dans la direction d'où venaient les deux femmes. Un moment, Méréane la regarda s'éloigner, affichant l'air indéchiffrable typique des Aes Sedai. Puis, bizarrement, elle suivit la jeune femme. Sa démarche légère, comme si elle flottait au-dessus du sol, aurait presque fait passer Isel pour une fille de ferme à l'allure inélégante. L'âne ne perdit pas son temps à s'interroger sur les motivations de Méréane. Dans le même ordre d'idées, il n'avait jamais voulu savoir pourquoi Moiraine l'avait chargé de surveiller sa collègue. S'il tentait de débrouiller les chevaux des complots d'Aes Sedai, un homme risquait fort de perdre la raison. Au moins, il avait une quasi-certitude. Moiraine était bien ce qu'elle prétendait être. Sinon, Méréane l'aurait traîné par les cheveux le long de tous les couloirs du palais. Lorsque les deux femmes furent assez loin, l'âne sortit de sa cachette et jeta un coup d'œil dans le couloir latéral. Plus personne en vue. Eh bien, tant mieux, parce que les Aes Sedai ne l'intéressaient pas aujourd'hui. Il avait besoin de voir Boukama pour lui parler d'un rêve. S'il fuyait, le mariage arrangé par Edain serait à l'eau. Et s'il parvenait à éviter assez longtemps la tigresse, elle finirait par trouver un autre mari pour sa fille. Mais ses rêves de restauration du Malkière seraient définitivement enterrés. Dès qu'ils apprendraient le départ de l'âne, les hommes et les femmes venus pour le soutenir se détourneraient à jamais de lui. Bref, s'il partait, cela ruinerait bien des rêves. Mais l'homme qui avait porté un bébé attaché dans son dos avait bien le droit de rêver, lui. Le devoir était une montagne. C'était entendu. Mais il fallait le tenir à bout de bras et non pas se laisser écraser par sa chute. L'âne avisa devant lui un large escalier aux marches de marbre et à la rampe de pierre. Alors qu'il s'y engageait, il trébucha sans raison apparente, échoua à reprendre son équilibre et bascula dans le vide. Se roulant en boule, un réflexe miraculeux, il dévala les marches, incapable d'inverser son élan. Puis il s'écrasa sur le sol, au pied de l'escalier, la violence du choc achevant de lui couper le souffle. Des points noirs dansant devant ses yeux, il lutta pour se relever et recommencer à respirer normalement. Des serviteurs jaillirent de nulle part et l'aidèrent à se remettre debout. Assurant qu'il avait eu une chance incroyable de ne pas se briser le cou, ils demandèrent s'il voulait voir une Aes Sedai afin qu'elle le soulage. Les yeux rivés sur le haut de l'escalier, l'âne répondit ce qui lui passa par l'esprit. « N'importe quoi, pourvu que ces gens s'en aillent. » Il n'avait jamais eu autant de bleu en préparation de sa vie, mais voir une sœur était bien la dernière chose qu'il lui fallait. Au lieu de se rouler en boule et d'accompagner la chute, la plupart des gens auraient tenté de s'arrêter, et ils auraient fini avec la moitié des os cassés, au mieux. En haut des marches, quelque chose lui avait fait un croc en jambe. Puis on l'avait poussé dans le vide. Même si c'était absurde, il n'y avait qu'une seule explication. Car personne n'était assez près de lui pour le toucher, il en aurait mis sa main au feu. Donc, une Aes Sedai avait tenté de le tuer avec le pouvoir de l'unique.
« Seigneur Mandragoran !»
Le garde qui approchait essaya d'esquisser une révérence sans cesser de courir, ce qui faillit lui valoir une chute presque aussi spectaculaire que celle de l'âne.
« Monseigneur, on vous cherche partout. C'est votre ami, Pukama. Il faut me suivre, seigneur. Il est peut-être encore vivant. »
Jurant entre ses dents, l'âne emboîta le pas au garde et lui cria d'aller plus vite. Mais quand ils arrivèrent, il était trop tard. Trop tard pour l'homme qui avait porté un enfant dans son dos. Et trop tard pour les rêves. Dans un passage qui menait à une cour d'entraînement, Pukama gisait sur le ventre, le manche d'un couteau dépassant entre ses omoplates. Une flaque de sang se formait sous son menton, et ses yeux exprimaient une surprise infinie. L'âne s'agenouilla, ferma les paupières de son protecteur et, murmurant une prière, demanda à la terre de bien vouloir le prendre dans ses bras pour l'éternité.
« Qui l'a trouvé ? »
demanda-t-il au garde qui faisait cercle autour du guerrier mort. Il écouta à peine une cacophonie de réponses confuses. Si la chance avait bien voulu lui sourire, Pukama s'était déjà réincarné dans un monde où la grue dorée volait toujours. Un monde où les 7 tours étaient debout, les 1000 lacs brillant au soleil comme un immense collier. Mais qui avait pu approcher Pukama pour le frapper ainsi ? Le vétéran aurait senti qu'on dégainait une lame dans son dos. Une seule certitude demeurait. Il était mort parce que l'âne l'avait impliqué dans une machination d'Aes Sedai. Se relevant, l'âne recommença à courir. Mais cette fois, il ne fuyait plus. Non, il fondait sur une proie, se fichant bien de qui pouvait le voir. Le bruit de la porte dans l'antichambre et les cris indignés des servantes incitèrent Moiraine à se lever d'un bond du fauteuil confortable où elle attendait. Quoi ? Elle aurait eu quelque peine à le dire, mais certainement pas un événement de ce genre. Puisant dans la source authentique, elle se dirigea vers la porte, mais celle-ci s'ouvrit à la volée avant qu'elle ait atteinte. Après s'être débarrassé des deux servantes, l'âne referma le battant et s'y adossa. Puis il riva son regard dans celui de Moiraine. Le visage contusionné, le guerrier se déplaçait comme si on venait de le battre comme plâtre. Dans l'antichambre, les servantes ne criaient plus. Quoi qu'ait l'intention de faire l'âne, elle savait leur maîtresse assez forte pour l'en empêcher. Stupidement, Moiraine posa la main sur le manche de son couteau. Avec le pouvoir, elle pouvait écraser cet idiot sans y penser. L'âne n'était pas furieux à voir son regard bleu glacial. Non, c'était pire que ça. Une froide détermination l'animait, comme s'il était un bourreau résolu à accomplir son office. Et sa cape noire le faisait effectivement ressembler à un exécuteur des hautes œuvres.
Pukama est mort, un couteau dans le cœur. Il y a moins d'une heure, quelqu'un a tenté de me tuer avec le pouvoir de l'unique. J'ai d'abord pensé que c'était Meriane, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle suivait Izel dans un couloir. Sauf si c'était une diversion pour me piéger, elle n'a pas eu la possibilité de m'attaquer. De toute façon, quand je veux passer inaperçu, il est rare qu'on me remarque. Alors pourquoi en aurait-elle eu après moi ? Tout ça ne laisse qu'une autre hypothèse. Vous.
Moiraine grimaça, et pas seulement à cause de cette accusation assénée avec une conviction sans faille. Elle aurait dû se douter que l'autre idiote, Izel, irait voir Meriane.
Vous seriez surpris de l'acuité visuelle des sœurs. Très surpris même.
Surtout quand elle canalisait le pouvoir.
L'âne. Je n'aurais pas dû demander que Pukama surveille Meriane. Elle est bien trop dangereuse.
Quoi de plus normal pour une sœur noire ? Car à présent, il n'était plus douteux que Meriane appartenait à la Jeune Noire. Quand elle prenait un espion la main dans le sac, les sœurs normales pouvaient faire un exemple des plus douloureux, mais elles ne tuaient pas le coupable. Cela dit, que faire contre Meriane ? Des certitudes n'étaient pas des preuves, et la chair d'Amirline exigerait qu'on lui démontre la culpabilité de Meriane, en supposant qu'elle ne soit pas elle-même membre de l'âge à noir. Mais ça, C'était impossible à savoir. Une autre question se posait. Pourquoi Meriane perdait-elle son précieux temps avec Izel?
Si vous tenez à cette fille, Ilan, je vous suggère d'aller la retrouver et de l'empêcher de revoir Meriane.
Le guerrier haussa les épaules.
Toutes les sœurs sont dangereuses. Izel ne craint rien pour le moment. En venant ici, je l'ai vue en compagnie de Brice et de Diric. Ils semblaient pressés tous les trois.
Aes Sedai, pourquoi Bukama est-il mort? Dans quel traquenard l'ai-je envoyé à cause de vous?
Moiraine leva une main pour réclamer le silence et fut vaguement étonnée de l'obtenir. Tirant profit de ce répit, elle réfléchit à toute vitesse. Meriane avec Izel. Izel avec Brice et Diric. Meriane tentant d'assassiner Lan.
Oui, bien sûr. Il y avait une logique à tout ça.
À première vue, c'était absurde, et pourtant...
Diric m'a dit que vous étiez l'homme le plus chanceux du monde. Pour son bien, j'espère qu'il ne se trompait pas. Lan, où irait Brice s'il voulait être parfaitement tranquille? Quelque part où on ne risquerait ni de le voir, ni de l'entendre. Un lieu qu'il juge confortable, certes, mais qui soit à l'écart de tout.
Dans l'aile ouest du palais, il y a une promenade.
Lan s'ébroua soudain.
Si Brice est en danger, je dois prévenir les gardes.
Il s'était déjà retourné, la main sur la poignée de la porte.
« Non !»
s'écria Moiraine. Elle prépara un tissage d'air pour retenir le guerrier, si ça devenait nécessaire.
« Si Meriane est simplement en train de lui parler, le prince détestera que ses gardes fassent irruption dans son refuge. »«
Et si elle fait plus que parler ?»«
Dans ce cas, il est déjà trop tard pour donner l'alerte. En admettant qu'on nous croit. Quelle preuve avons-nous, Lan ? Mettre en doute la parole d'une Aes Sedai est risqué. »
Le guerrier secoua la tête, furieux, et marmonna au sujet des Aes Sedai quelques mots que Moiraine fit mine de ne pas avoir entendus. Elle aurait dû demander des excuses à Lan, et l'heure n'était pas à ses enfantillages.
« Conduisez-moi jusqu'à cette promenade, Lan, et ne perdons pas de temps. »
Si Meriane commençait par parler, elle ne serait pas longue à passer à la suite de son programme. Lan ne traîna pas en chemin, et avec ses grandes jambes, ça voulait vraiment dire quelque chose. Pour le suivre, Moiraine releva l'ourlet de sa robe et courut aussi vite qu'elle en était capable. Des serviteurs et des résidents du palais lancèrent des remarques acerbes en la voyant exhiber ses jambes, ou plutôt ses bas, mais elle s'en moqua comme d'une guigne. L'essentiel était que l'âne ne la sème pas. En courant, elle laissa le pouvoir déferler en elle au point que l'allégresse et la béatitude, atteignant une intensité inouïe, en devinrent presque douloureuses. Qu'allait-elle pouvoir faire contre une sœur beaucoup plus puissante qu'elle? Meriane avait reçu le chalp de 100 ans avant la naissance de l'arrière-grand-mère de Moiraine. Par la lumière. Elle aurait tout donné pour avoir moins peur, et pour que Siouan soit avec elle. Après avoir traversé des dizaines de salles officielles et remonté 10 fois plus de couloirs, Lan et Moiraine déboulèrent à l'air libre, sur une promenade à balustrade de pierre où on n'entendait plus les bruits du palais. Des centaines de pieds plus bas, les toits de la cité brillaient au soleil. Meriane était ici, enveloppée par l'aura du Saïdar. Adossés à la balustrade, Brice et Diric se débattaient en vain, contre des liens et un baillon d'air. Izel les regardait, l'air intéressé. Un peu plus loin, rayonnant de satisfaction malsaine, Rhine contemplait le spectacle, les bras nonchalamment croisés. Ainsi, c'était un suppôt de ténèbres.
« Comment aurais-je pu vous amener le seigneur Diric sans son père ?»
demanda Izel, mécontente.
« Je me suis assurée que personne ne soit au courant, mais... »
Tissant un bouclier d'esprit, Moiraine le projeta sur Meriane, avec toute la puissance que lui conférait le Saïdar. Le but de l'attaque était de couper la sœur de la source authentique. Bien entendu, le bouclier se désintégra après avoir percuté sa cible. Meriane était bien trop forte, comme Moiraine l'avait supposé. Elle avait quand même réussi à la prendre par surprise. Mais la sœur bleue, non, noire, ne broncha même pas.
« Tu t'en es très bien tiré avec le vieil espion, Rhine, »
dit-elle, tout en projetant sur Izel le même tissage d'air qui paralysait Brice et Diric.
« Tu veux bien me débarrasser de son protégé, cette fois ? Je ne rêve pas. Tu as bien dit que tu étais meilleur escrimeur que lui. »
Tout sembla se produire en même temps. Rhine bondit en avant, toutes ses clochettes tintinabulant. Lan réussit d'extrême justesse à dégainer sa lame pour parer le premier coup. Avant que retentisse le son si particulier de l'acier qui percute l'acier, Meriane attaqua Moiraine avec un bouclier d'esprit, semblable à celui que la jeune femme avait tissé, mais beaucoup plus puissant. Horrifiée, la trop récente Aes Sedai comprit que son adversaire avait assez de force pour la couper de la source, alors qu'elle canalisait le maximum de Saïdar qu'elle était en mesure d'absorber. elle riposta avec des flux d'air et de feu. Et Meriane frémit quand son tissage, soudain coupé, revint vers elle comme un ressort qui se retend. Profitant d'un court répit, Moiraine tenta de libérer Brice, Diric et Isel, mais ses flux furent neutralisés par une nouvelle attaque de Meriane. Et cette fois, la sœur noire parvint à toucher sa cible.
« Tu traînes trop dans mes jambes, Moiraine, » dit Meriane, comme si elle bavardait devant une tasse d'infusion.
Sereine et maternelle, la sœur noire ressemblait à la maîtresse des novices, ferme mais juste, qu'elle avait longtemps fait mine d'être.
« Je crains de devoir te demander pourquoi tu me casses ainsi les pieds. »
Moiraine réussit à sectionner un tissage de feu qui aurait carbonisé ses vêtements, et peut-être une bonne partie de sa peau. Meriane sourit, comme une mère amusée par l'astuce de sa fille.
« Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je te guérirai afin que tu puisses répondre à mes questions.
Et tu répondras, fais-moi confiance. Ici, personne ne t'entendra crier. »
Si Moiraine avait encore douté de l'obédience réelle de Meriane, le tissage de feu aurait mis un terme à ses incertitudes. Comme si ça ne suffisait pas, Meriane la bombarda de flux qui faillirent embraser ses cheveux, puis l'empêcher de respirer, parce qu'il n'y avait plus d'air autour d'elle. Des tissages qu'elle ne connaissait pas, mais qui avaient un point commun. Si elle n'avait pas su se défendre, il l'aurait blessée cruellement, la laissant à demi-morte. Dès qu'elle avait l'ombre d'une possibilité, Moiraine s'efforçait toujours de libérer Brice, Diric et Isel. Le reste du temps, elle tentait de couper Meriane de la source, voire de l'assommer simplement, si elle ne pouvait pas faire mieux. Sachant qu'elle luttait pour sa vie, en cas de victoire, Meriane l'exécuterait après l'avoir interrogée, elle n'envisagea jamais de tuer son adversaire, même si la situation présente l'aurait autorisée à violer les trois serments. Elle avait aussi des questions à poser, et le sort du monde dépendait peut-être des réponses de la sœur noire. Hélas, pour l'heure, Moiraine parvenait tout juste à se défendre. À tout moment, elle pouvait faillir, et elle en avait les entrailles nouées. Même en gardant prisonnière trois personnes, Meriane restait bien trop forte pour elle. Il aurait fallu que l'âne fasse diversion, mais il était très peu probable qu'il en ait l'occasion. Pour le moment, il faisait jeu égal avec Rhine, dansant avec lui un ballet de mort étrangement gracieux et fluide. Mais s'il y avait un souffle de différence entre leurs compétences respectives, l'avantage était indubitablement pour Rhine. Le sang qui ruisselait sur les joues de l'âne en attestait suffisamment. Avec l'énergie du désespoir, Moiraine continua à résister, se concentrant au point de ne plus maintenir le protocole qui lui permettait d'être insensible au froid. En claquant des dents, elle frappait, parait, ripostait et frappait encore. Si elle parvenait à fatiguer Meriane...
« Tout ça est un peu trop long, tu ne trouves pas, gamine ?»
lança la sœur noire. Diric lévita soudain dans les airs. Luttant contre des liens qu'il ne voyait pas, il bascula par-dessus la balustrade. Brice tourna la tête pour regarder son fils, et il tenta de crier sous le baillon sans substance.
« Non !»
cria Moiraine. Désespérée, elle envoya des flux d'air censés ramener le gamin en sécurité, mais Meriane les sectionna alors même qu'elle cessait de maintenir Diric en lévitation. En hurlant, le fils de Brice tomba vers une mort certaine. Moiraine eut un éblouissement et perdit conscience. Quand elle rouvrit les yeux, probablement quelques secondes plus tard, l'écho du cri de Diric retentissait encore sous son crâne. Elle était étendue sur le dos, à même le sol, et sa tête tournait comme une toupie. Tant que ça durerait, il lui serait impossible de s'unir de nouveau à la source authentique. Mais ça n'avait plus aucune importance à présent. Elle voyait très clairement le bouclier que Meriane maintenait autour d'elle. Une fois qu'il était en place, la plus faible des sœurs pouvait alimenter un bouclier. Moiraine tenta de se lever, retomba en arrière, et réussit quand même à se redresser sur un coude. Effectivement, elle n'avait pas perdu conscience longtemps. L'âne et Rhine s'affrontaient toujours, danseurs amoureux de la mort et pourtant résolus à tout faire pour ne pas finir entre ses bras. Tétanisé par la douleur et la haine au moins autant que par ses liens, Brice foudroya Meriane du regard, et il semblait possible que sa rage suffise à briser l'emprise que la sœur noire avait sur lui. Pleurnichant et tremblant, Isel fixait l'endroit où Diric avait basculé dans le vide. Le cœur serré, Moiraine prononça muettement le nom du gamin et se souvint de son enthousiasme communicatif le jour de son arrivée. Quelques instants de deuil fugitif pour une vie plus fugitive encore.
« Tu auras l'obligeance de m'attendre encore un moment, j'espère, »
dit Meriane en se détournant de Moiraine. Ce fut au tour de Brice de l'éviter. Il ne broncha pas, exprimant toujours la même haine pour la sœur noire. Moiraine parvint à se mettre à genoux. Incapable de canaliser le pouvoir, elle était à bout de force et de courage. Mais il lui restait sa détermination. Brice venait de passer par-dessus la balustrade. Moiraine se mit debout. La détermination. Sans un cri, la haine toujours affichée sur son visage, Brice tomba à son tour. Il fallait que cette horreur s'arrête. Iselle l'évita elle aussi, tentant de crier malgré son bâillon. Oui, il fallait que ça s'arrête à l'instant. Basculant en avant, Moiraine enfonça son couteau dans le dos de Mériane. Jusqu'à la garde. Du sang chaud jaillit aussitôt sur sa main. Les deux sœurs tombèrent sur le sol. L'aura de Mériane disparut et son bouclier se dissipa. Un cri sortit enfin de la gorge d'Iselle, tandis qu'elle s'écrasait sur la balustrade. Se dégageant du cadavre de Mériane, Moiraine se releva à temps pour refermer une main sur le poignet d'Iselle, dont le corps avait déjà glissé dans le vide. Le poids de la jeune femme plaqua Moiraine contre la balustrade. Baissant les yeux, elle vit la pauvre petite idiote qu'elle retenait d'une main poisseuse de sang au-dessus d'un gouffre de plusieurs centaines de pieds. Que faire maintenant? Si elle tentait de hisser Iselle en sécurité, elles tomberaient toutes les deux, c'était certain. Et la main de la jeune femme glissait entre les doigts de la Aes Sedai, qui tentait de la sauver. Restait le pouvoir. Moiraine tenta de s'ouvrir à la source. En vain. Sa tête tournait toujours, et avoir une vision plongeante sur le gouffre n'arrangeait rien. Elle essaya encore, mais autant tenter de retenir entre ses doigts l'eau vive d'un ruisseau. Pourtant, il fallait qu'elle sauve au moins un des trois, et tant pis si c'était la plus insignifiante du lot. Mais la main d'Iselle lui échappa, et elle dut la regarder tomber en criant, les bras tendus, comme si elle pensait que quelqu'un pouvait encore la rattraper. Une main se posa sur l'épaule de Moiraine et la tira en arrière.
« Ne regardez jamais quelqu'un mourir, quand vous pouvez l'éviter, »
dit Lan. Son bras droit pendait le long de son flanc, le tissu de sa chemise rouge de sang. En plus d'une plaie au front, il avait récolté d'autres blessures. Mais Rhine gisait sur le dos, à quelques pas de là, ses yeux vides rivés sur le ciel, comme s'il ne parvenait pas à comprendre ce qui lui était arrivé.
« Une journée bien sombre, » murmura Lan. « La plus sombre que j'ai jamais connue. »
« Encore une minute, » souffla Moiraine. « Ma tête tourne trop pour que je puisse aller bien loin. »
Elle s'écarta pourtant du cadavre de Mériane. Il n'y aurait pas de réponse, et l'âge à noir resterait dans l'ombre. Se penchant, Moiraine récupéra son couteau et essuya sa lame sur la robe de la sœur noire.
« Vous avez des nerfs d'acier, Aes Sedai, » dit Lan.
« Parce qu'il le faut, »
murmura Moiraine. Le cri de Diric n'avait toujours pas fini de lui percer les tympans, et elle voyait sans cesse le visage d'Iselle surplombant le vide. Comme pendant l'ultime épreuve, son calme n'était qu'une façade, mais elle parvenait à la maintenir. Si elle faiblissait, elle tomberait à genoux et éclaterait en sanglots, en hurlant de chagrin.
« Il semblerait que Rhine ait été un suppôt des ténèbres, et un prétentieux. Il se croyait meilleur que vous. »
Lan secoua la tête.
« Non, il l'était. Mais il a cru que j'étais fini, avec un seul bras. Il n'aura donc jamais compris. L'heure de capituler sonne quand on est mort. »
Moiraine acquiesça. « Capituler après sa mort ? » Oui, c'était bien vu. Il fallut un moment pour que sa tête cesse de tourner. C'était indispensable pour qu'elle puisse de nouveau canaliser le pouvoir. En attendant, elle dut inciter Lan à la patience, alors qu'il voulait à tout prix prévenir la chatayane de la mort du prince et de son fils, avant qu'on ait retrouvé leur corps sur les toits. Assez logiquement, il était beaucoup moins pressé d'annoncer la fin de sa fille à Dame Edaine. Moiraine le comprenait, car elle se sentait aussi coupable que Mériane de cette mort-là. Pour elle aussi, le temps pressait, mais ses raisons étaient bien différentes. Dès qu'elle en fut capable, elle guérit Lan. Quand les flux combinés d'esprit, d'air et d'eau refermèrent ses chairs après avoir reconstitué les muscles lésés, le fier guerrier cria de douleur. Curieusement, Moiraine n'eut aucun plaisir à constater qu'il était un être humain après tout. Vidé de ses forces par le duel et la guérison, Lan dut s'appuyer à la balustrade pour tenir debout et reprendre son souffle. Moiraine trouva pratique qu'il soit incapable de bouger. Avant de s'en aller, il devait savoir quelle histoire raconter. De plus, elle avait d'autres plans pour lui. Tissant un flux d'air, elle fit léviter le corps de Mériane au-dessus de la balustrade, puis le fit descendre un peu, le plaquant contre la paroi de la montagne. Alors, des flammes enveloppèrent la dépouille de la sœur noire. Un feu si chaud qu'il ne produisit pas de fumée, mais simplement des ondulations dans l'air, comme dans un désert brûlé par le soleil.
« Que faites-vous ? » commença Lan.
Conscient que sa question était idiote, il rectifia le tir.
« Pourquoi faites-vous ça ?»
Moiraine se laissa un instant réchauffer par la fournaise, puis elle répondit.
« Il n'y a aucune preuve de son appartenance à la Janoire. La seule certitude, c'est qu'elle était une Aes Sedai. »
Elle en avait trop dit. En ces temps troublés, la Tour Blanche avait autant besoin de secrets qu'au moment de la mort du Malkier, mais elle ne pouvait pas révéler ces choses-là à Lan. Pas encore. Cela dit, il n'avait pas tiqué à la mention de la Janoire. Par ignorance ? La jeune femme n'aurait pas parié là-dessus. Cet homme était aussi impassible qu'une sœur.
« Je ne peux pas mentir sur ce qui vient d'arriver. Mais il m'est possible de me taire. Vous tairez-vous aussi ? Ou ferez-vous le sale travail pour les ténèbres ?»«
Vous êtes une femme de fer, » dit simplement Lan.
Une réponse en soi, comprit Moiraine.
« Parce qu'il le faut, c'est tout. »
Le cri d'Odiric, le visage d'Isel. Pour l'heure, il fallait encore se débarrasser du cadavre de Rhine, faire disparaître le sang sur le sol et sur leurs vêtements. Parce qu'il le fallait, oui. Parce qu'il le fallait.